Heure temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro dans moins de 5 minutes. Votre émission sportive Sportrama présentée par Nicolas Pinault. Mais tout de suite, un bulletin d'information. On commence par la crise au Mali. Après plus d'une dizaine de jours de pause, c'est reparti pour les pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger. La troisième phase de ces négociations devrait permettre d'entrer dans le vif du dialogue entre groupes armés et gouvernement malien. Kassim Traoré.
Les négociations entre le gouvernement du Mali et les mouvements rebelles ont repris dimanche 19 octobre à Alger. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, Ablaye Diop. Ces négociations avaient été suspendues pour la fête de Tabaski. Elles reprennent dans un climat tendu parce qu'elles avaient buté sur le fédéralisme proposé par des groupes armés, ce qui a été rejeté par la délégation malienne. Avant la pause pour la fête de Tabaski, les médiateurs avait pris connaissance des deux propositions. Elle va certainement faire des propositions. La suite des négociations dépendra en partie de la pertinence de ce que diront les médiateurs. Mais l'ouverture de la rencontre avait été ajournée en raison de l'absence de certains membres des délégations des groupes armés. En tout cas, les délégations des groupes armés sont actuellement au grand complet à Alger. La communauté internationale de son côté souhaite l'adoption rapide d'un accord définitif de paix pour le Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Malgré le cessez-le-feu annoncé vendredi entre le gouvernement nigérien et Boko Haram, de nouveaux combats ont été signalés dans le nord-est du pays. Idriss Fall.
Selon un officier nigérian et un membre d'un groupe d'autodéfense, les islamistes ont attaqué hier soir la ville de Damboa dans l'état de Borno. L'armée affirme avoir repoussé cette attaque et tué 25 insurgés. Déjà vendredi, le jour même où la trêve a été annoncée, des dizaines de membres présumés de Boko Haram avaient attaqué Abadam dans l'état de Borno. Des témoins affirment qu'au moins 30 personnes ont été tuées. Malgré tout, Doyin Okupe, conseiller du président nigérian, annonce la reprise demain des discussions au Tchad pour obtenir la libération de plus de 200 lycéennes kidnappées depuis la mi-avril par les islamistes. Il dit ne pas savoir combien de temps vont prendre ces discussions, mais a assuré que toutes les options sont sur la table. Sur la poursuite des affrontements, il assure que la direction de Boko Haram est d'accord pour le cessez-le-feu, mais certains militants islamistes ne sont pas encore au courant de cet accord.
Ville morte aujourd'hui à Bénin, dans l'est de la République démocratique du Congo. La quasi-totalité des boutiques situées sur les grandes artères de cette ville de 500 000 habitants étaient fermées, selon l'AFP. Les habitants protestent ainsi contre l'insécurité suite au massacre perpétré par des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Pour parler sur le conflit au Soudan du Sud, le président tanzanien Jakaya Kikwete a reçu son homologue Salva Kiir dans le cadre d'efforts visant à mettre fin au conflit qui ravage le pays depuis 10 mois. Hier, le président tanzanien s'est entretenu avec Riek Machar, l'ancien vice-président du Soudan du Sud, à la tête d'une rébellion. Et puis ici, même aux États-Unis, Ahmed Abou Katala, le Libyen accusé d'avoir organisé l'attaque du consulat américain à Benghazi le 11 septembre 2012, a plaidé non coupable. Il a brièvement comparu aujourd'hui devant un juge fédéral à Washington, D.C. Accusé de meurtre, il encourt la peine de mort.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le reste de l'actualité en plus bref. En Irak, 11 personnes ont été tuées aujourd'hui à Bagdad dans un nouvel attentat suicide anti-chiite. Cet attentat renforce les craintes d'une recrudescence d'attaques à l'occasion d'une grande cérémonie religieuse prévue cette fin de semaine. Revirement du gouvernement turc, Ankara a annoncé aujourd'hui son soutien aux combattants kurdes en Syrie en autorisant les Peshmerga irakiens à traverser son territoire pour rejoindre Kobané, ville syrienne assiégée par les djihadistes de l'État islamique. Et puis au moins 15 personnes, dont des enfants, ont été tuées ce lundi au Yémen, dans un attentat suicide à la voiture piégée. La cible, selon des témoins cités par l'AFP, était un barrage tenu par des rebelles chiites au sud de la capitale Sanaa. L'explosion est survenue dans une région où s'affrontent les combattants d'Al-Qaïda et les rebelles chiites. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, ne partez pas, gardez vos sièges. Dans un instant, Sportrama, c'est avec Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama. Comme tous les lundis soirs dans notre émission en direct de Washington, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, vous pouvez nous laisser vos numéros sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique et nous attendons vos appels en direct. Vous pouvez composer le 001 202 619 31 40. Avec nous ce soir, on va accueillir nos consultants sur le continent. Tout d'abord, le grand Jules Valentin-Gouet, la bibliothèque à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Il nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Bouicon également. C'est au Bénin, Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bienvenue.
Et on va faire un grand coucou, un petit nouveau dans la bande, Roger Stéphane C. Il est à Abidjan de Radio Jaune et Noir. Bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous et bienvenue à Abidjan.
Allez messieurs, on va parler football. Hein, le continent qui rêve encore de ce qui s'est passé la semaine dernière, les éliminatoires de la CAN 2015, les 3e et 4e journées. Et dans le groupe A, le Nigeria a sauvé sa tête mais a perdu son sélectionneur. Victoire 3 face au Soudan des Super Eagles. Un succès qui n'a pas empêché le départ de Stephen Keshi. Le sélectionneur nigérian a été remercié après avoir été très critique vis-à-vis de sa fédération. Jules Valentin Gouet, est-ce que vous pensez que les champions d'Afrique en titre vont pouvoir voir cette CAN 2015?
Oui, le Nigeria revient, ça c'est certain. Surtout qu'il a échappé à un match piège, vraiment. Le Soudan lui a proposé une surprise tactique d'entrée en jouant plutôt attentif, ce qui est inhabituel pour les joueurs du Nil, et en procédant par contre. Donc, les Nigériens ont dû attendre la seconde mi-temps et profiter des erreurs défensives des Soudanais pour s'imposer réellement.
Et Jules Valentin, hein, toujours dans ce groupe, l'Afrique du Sud qui reste en tête après le match nul 0-0 à Polokwane. Hein, c'était face au Congo-Brazzaville. Hein.
Oui, un match nul qui en fait est une revanche de Claude Leroy parce que au match aller, sa défense centrale avait fait des cadeaux à l'attaque sud-africaine. Donc il a mis un dispositif tactique qui avait pour but de neutraliser les premières rampes de lancement de l'animation offensive sud-africaine. Il a réussi dans ce jeu du chat à la souris et finalement, si la leçon tactique a payé, l'enjeu a quand même tué le jeu de score nul et vierge et équitable.
Allez, on passe au groupe B, messieurs. Hein. L'Algérie qui s'est déjà qualifiée après sa nouvelle victoire, la 4e en 4 matchs, 3-0 contre le Malawi. C'était à Blida, Élisée Oumpatine.
Évidemment, puisque Christian Gourcuff hein, a pris une équipe très en forme. On a vu cette équipe lors de la dernière Coupe du Monde, et bien, avec quelques modifications hein, de schéma tactique, et bien, cette équipe est devenue plus forte que jamais. C'est pas pour rien qu'elle est classée numéro 1 sur le continent africain. Maintenant, le reste, c'est de voir, de faire tourner l'effectif hein, pour pouvoir terminer en beauté, quand on sait que l'Algérie est à la recherche de son titre. Le seul titre remporté sur le continent remonte en 1990. Peut-être que l'année sera la bonne pour les hommes de Christian Gourcuff.
Allez, on va poser la question évidemment à Roger Stéphane. Roger, le numéro 2 de ce groupe, ça devait être le Mali. Eh bien, grosse surprise, hein, puisqu'à Bamako, les Aigles ont été battus 3-2 par les Walia d'Éthiopie, qui étaient au bord de l'élimination. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce résultat pour le moins surprenant hein?
Ben, c'est une mauvaise opération pour l'équipe du Mali qui avait la possibilité de rester coché à l'équipe de l'Algérie dans ce groupe-là. Malheureusement, les Maliens ont très très mal négocié cette 4e journée face à l'équipe du Malawi qui elle réalise une très très bonne opération. Ça relance un peu les débats dans ce groupe B. C'est vrai que l'Algérie a fait l'essentiel avec ses 4 victoires en 4 matchs, 12 points. Derrière, c'est un peu plus chaud avec le Mali qui a coincé, le Malawi qui revient. C'est dommage un peu pour les Maliens, mais ça bon, ça laisse entrevoir une suite de compétition assez intéressante quand même dans ce groupe B. Rien n'est encore perdu pour les Maliens, rien n'est perdu également pour le Malawi. On va jeter le regard certainement sur les deux dernières journées et ça promet énormément dans ce groupe B.
Merci beaucoup. On va écouter, vous restez tous avec nous. On va écouter dans la capitale malienne le sélectionneur Henri Kasperzak. Hein. Lui reste persuadé que le Mali va se qualifier.
C'est une déception parce que c'est la défaite, mais ce n'est pas une déception par rapport à la prestation fournie par les joueurs. On a l'espoir hein, de l'avenir, c'est que cette équipe va réagir. On est abattu, c'est normal. La défaite toujours fait mal, mais il faut réagir. Je crois qu'on est toujours dans la course pour se qualifier. Nous avons fait une bonne prestation dans l'ensemble. C'est peut-être notre meilleur match de cette équipe malienne depuis la reprise de la compétition. Malheureusement, en football, la vérité existe toujours sur le terrain. Quand on a regardé un petit peu la maîtrise collective de l'équipe malienne, elle a dépassé 60 minutes. Éthiopiens, en deuxième mi-temps surtout, presque, ils n'ont pas existé, mais malheureusement pour nous, on a pris des buts malheureux à la fin du match. Donc on ne baisse pas les bras, préparer les deux matchs suivants au mois de novembre et aller chercher la victoire au Malawi.
Henri Kasperzak, le sélectionneur du Mali. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama, on va parler du groupe, c'est le Burkina Faso et le Gabon qui se sont neutralisés un partout au stade du 4 août. Avant de vous entendre, on va écouter Paul Put, hein, le sélectionneur du Burkina, qui fulmine contre les décisions des arbitres.
On est déçu parce que si tu vois les deux matchs, je pense sur les deux matchs, on mérite beaucoup plus qu'un point. Moi, je comprends rien au niveau des arbitrages parce que si on joue à l'extérieur, on joue contre 12. Maintenant, si on joue à domicile, on joue aussi contre 12. Moi, j'ai rien compris.
Alors, Jules Valentin, Paul Put, il a rien compris, mais on peut quand même dire hein, que le Gabon et le Burkina devraient passer dans ce groupe. Hein.
Oui, en principe, les deux équipes sont déjà positionnées et elles devraient passer. C'est juste une affaire de leadership maintenant qui va se jouer à distance entre le Burkina Faso, qui est quand même le vice-champion d'Afrique et qui veut montrer que c'est lui le leader, et de l'autre côté, le Gabon, une équipe émergente qui, ma foi, aime les défis. Je crois que ces deux équipes vont se qualifier sans problème.
Voilà, on va quand même signaler que l'Angola hein, a battu le Lesotho 4-0 à Luanda. Évidemment, hein, si les choses en restent ainsi, le Burkina et le Gabon qui iront à cette CAN. On va parler du groupe B, messieurs. Et là, on va retrouver hein, Roger, évidemment Stéphane, pour parler de la sensation. Le groupe D à Abidjan, la République démocratique du Congo qui a fait chuter la Côte d'Ivoire. Victoire 4-3 des Léopards qui se relance dans ce groupe D. Alors, évidemment, Roger Stéphane, un scénario incroyable, les éléphants réduits à 10, les éléphants menés 3-1, et puis Kalou qui revient et qui remet les éléphants en jeu, 3 partout, on se dit que le match est terminé, Hervé Renard peut respirer, et là, patatrac, puisque finalement, Bokila crucifie les Ivoiriens à la 90e minute. Alors, maintenant, la RDC et la Côte d'Ivoire sont deuxième ex aequo à 6 points. Qu'est-ce qui se passe, évidemment, parmi les éléphants, Roger Stéphane?
Ben écoutez, on est en train de secouer un peu les meubles, en train de dresser un peu, tirer un peu les oreilles des garçons par rapport à cette mauvaise prestation. On avait gagné un petit regain de confiance après le match, le 2-1 du 11 octobre dernier en République démocratique du Congo au stade de Tata Raphaël. Et puis, comme vous le dites si bien, scénario incroyable, la défaite au stade Félix Oboyen 4-3, une défaite qui relance complètement les débats dans ce groupe D avec une équipe ivoirienne qui a désormais la pression. On avait tous dit que les jeux étaient faits après la troisième journée entre Camerounais et Ivoiriens, c'est une victoire donc des Ivoiriens. Malheureusement, les Congolais sont passés par là. Là, Hervé Renard va continuer de travailler parce que ce match-là a montré des faiblesses défensives côté Ivoirien, qui reste toujours le talon d'Achille véritablement de cette équipe ivoirienne, la défense qui a énormément souffert. L'équipe a montré de bonnes choses, a réduit sa 10 avec l'entrée de Kalou qui égalise à deux reprises. Et puis après, vous l'avez dit, le but congolais qui ruine les espoirs des Ivoiriens, ben, il faut continuer à travailler. Les deux dernières journées vont être extrêmement importantes. Heureusement pour les Ivoiriens, ils reçoivent deux fois. Ils vont recevoir la Sierra Leone, Abidjan, le Cameroun. Donc, ils ont la possibilité de se racheter. Ça va être deux journées extrêmement importantes pour les éléphants qu'il ne faudra pas manquer, tout en suivant de près également les deux dernières journées pour l'équipe de la République démocratique du Congo.
Et oui, la République démocratique du Congo, hein, entraînée par Florent Ibengue, évidemment, le sélectionneur des Congolais, qui entraîne également la SV Club, qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. On va écouter le sélectionneur des Léopards.
Une grande satisfaction évidemment de l'avoir emporté et surtout d'avoir rétabli un petit peu ce qu'on avait perdu au match aller. On voulait justement jouer cette équipe en étant solide défensivement parce qu'on savait qu'ils allaient laisser des espaces derrière. Donc on en a profité en étant solide, surtout en première mi-temps. Et on a joué vraiment comme on le voulait. Et puis malheureusement, comme notre équipe est jeune, depuis que je suis arrivé, je crois que c'est le quatrième match seulement qu'elle a cette équipe. Donc évidemment, elle a les qualités de sa jeunesse et aussi les défauts qui font qu'au lieu de conserver le ballon en seconde mi-temps comme on pouvait le faire en étant à 11 contre 10, on a laissé les vieux briscards de la Côte d'Ivoire revenir petit à petit à la marque et nous faire douter alors qu'on avait tout pour alourdir le score. Donc une grande satisfaction, malgré ces moments difficiles qui ont tangué très fortement, d'avoir pu aller arracher la victoire dans les dernières minutes du match. Donc, bravo vraiment à mes joueurs.
Voilà, Florent Ibengue, le sélectionneur des Congolais. Alors, on va poser la question à Élisée Ongpatine. Élisée, qu'est-ce que vous avez pensé la belle performance des Léopards ou plutôt l'effondrement de la dernière minute pour les éléphants?
Oui, surtout que quand vous faites mener à domicile, hein, il faut attaquer, hein, surtout dans les dernières minutes, puisque lorsque les Ivoiriens sont venus à 2-2, il y avait de la chance, hein, pour pouvoir aller remporter les 3 points, ce qui a fait que sur une contre-attaque, eh bien, les attaquants congolais ont mené la vie à une défense transparente, hein, durant toute la rencontre, puisque Didier Zokora a pris sa retraite, tout comme Kolo Touré, vous voyez. Donc les apprêts de Didier Drogba, Zokora ou encore Touré se sont fait sentir, et là, les Ivoiriens ont encore du chemin, de long chemin à faire, hein, pour pouvoir reconstruire encore une très bonne équipe afin de remporter une Coupe d'Afrique des Nations qui les échappe depuis 1992.
Alors justement, Jules Valentin, analyse pertinente d'Élysée, est-ce qu'il faut rappeler les anciens pour sauver la maison ivoirienne?
Oui, c'est que en fait, je crois que le gros problème est peut-être au niveau du mental. Je crois que s'il faut appeler les anciens, c'est que les anciens faisaient la différence par le mental. On voit le leader Didier Drogba et tout le battage qu'il fait sur le terrain. Il amène toute l'équipe avec lui. Et c'est le problème de l'équipe actuelle, c'est qu'elle manque d'âme. Elle n'a pas réellement, disons que l'esprit de combat, c'est plus une sélection qu'une équipe. L'esprit d'équipe manque. Mais il faut aussi souligner que sur le plan strictement sportif, dans l'opposition de style, l'équipe ivoirienne actuelle évolue un peu comme le Sénégal ou comme le Mali, avec des grands gabarits qui ont des problèmes face aux vifs et très accrocheurs footballeurs de l'Afrique centrale. On l'a vu contre la Zambie en 2012, on l'a vu contre le Cameroun à ce tour éliminatoire, ainsi que contre la RDC. Je crois donc que c'est surtout une question de sursaut moral.
Oui, c'est intéressant. La Côte d'Ivoire qui était à la Coupe du Monde, éliminée au premier tour, et la catastrophe africaine de ce premier tour à la Coupe du Monde, c'était évidemment le Cameroun. Et le Cameroun qui semble renaître de ses cendres, puisqu'on voit évidemment les Camerounais qui se sont imposés 2-0 face à la Sierra Leone. Léonard Kouaké et Stéphane Biya qui ont inscrit les 2 buts du match lors des 7 premières minutes. Alors évidemment, les Camerounais sont très bien placés pour accéder à cette CAN. On va avoir en ligne un auditeur de Yaoundé, Kadhafi Amadou. Bonsoir.
Et bonsoir, monsieur.
Alors, est-ce que selon vous, les problèmes des Camerounais qui ont été criants à la Coupe du Monde ont été résolus?
Bon, les problèmes du Cameroun à la Coupe du Monde ont été bel et bien résolus quand on voit les interprétations des matchs, des 4 derniers matchs pour la qualification de la Coupe d'Afrique. Vraiment, le Cameroun est en pleine forme en ce moment.
Eh bien, écoutez, on va poser la question. Merci beaucoup, Kadhafi. Jules Valentin, justement, on a 2 scénarios différents entre les Ivoiriens et les Camerounais. Qu'est-ce que vous pensez de cette renaissance, finalement? Les hommes sont quasiment les mêmes, notamment le sélectionneur Volker Finke, et pourtant, le Cameroun qui gagne.
Oui, les hommes sont pas totalement les mêmes. Et le sélectionneur, on a eu la bonne idée de le conserver. Ça doit donner des leçons aux autres pays africains qui croient qu'au moindre match nul ou à la moindre défaite, il faut chasser un sélectionneur. Mais seulement ici, ce qui fait gagner le Cameroun essentiellement, c'est que les joueurs actuels n'étaient pas des titulaires pratiquement dans l'équipe qui se produisait. Ce sont des joueurs qui ont faim, qui doivent s'affirmer sur le terrain et, ma foi, ils se battent comme des véritables lions. Mais seulement, ils ont des limites au niveau du jeu collectif. C'est-à-dire, quand il faudrait que l'équipe fasse réellement le jeu, on sent que les automatismes ne passent pas totalement. Il manque réellement un animateur au niveau du jeu offensif. Donc, je crois que si déjà l'état d'esprit est bon, tout cela viendra avec le temps.
On va voir ça, évidemment. Autre sélection intéressante, hein, sur, évidemment, ces éliminatoires, c'est le groupe E, le Togo, qui recolle les morceaux. Nouvelle victoire 1-0 devant l'Ouganda, des éperviers à Lomé grâce à Gerge Akakpo. Les Togolais sont désormais deuxièmes avec 6 points derrière le Ghana qui a battu la Guinée 3-1. À Lomé, on va écouter le sélectionneur togolais Tchakala Tchanili.
Nous avons commencé difficilement. De toute façon, nous sommes en train de graduellement retrouver la vitesse de croisière. Pendant 1 an et demi, cette équipe n'a plus joué. Et les automatismes, dès qu'on a commencé, ça ne peut pas automatiquement venir. Et je pense quand même que c'est au fil du travail que nous allons aboutir à la satisfaction générale.
Voilà, Tchakala Tchanili. Alors, évidemment, Élisée Oumpatine, ce groupe intéressant, hein, les 3 équipes d'Afrique de l'Ouest qui se finalement tiennent en pas beaucoup de points. Et la Guinée qui a encore chuté face au Ghana 3-1. Alors, bon, le Ghana, on pense évidemment qu'ils vont se qualifier, mais vous êtes plutôt Togo ou Guinée, Élisée?
Encore comme Nicolas ayant un dernier match entre deux formations togolais et guinéens, et ça va se jouer au stade de Guégué à Lomé. Donc vous voyez, sur le papier, là, les Togolais partent avec les faveurs des pronostics, puisque là, ils vont évoluer à domicile. Mais sur le terrain, c'est autre chose, puisque ça va se jouer avec beaucoup de professionnalisme, hein, beaucoup d'expérience. Et là, je crois que les Togolais, avec ce qu'on a vu la fois dernière en match retour contre l'Ouganda, eh bien, les Togolais peuvent passer cette étape guinéenne. Mais attention, Michel Dessieux, qui connaît, qui maîtrise, hein, j'allais dire, le football ouest-africain, n'a pas encore dit son dernier mot.
Oui, Roger Stéphancé à Abidjan pour la radio Jaune et Noir. Qu'est-ce que vous pensez de la performance des Ghanéens, finalement ?
Mais écoutez, le Ghana confirme quand même, hein, reste naturellement l'une des belles équipes du continent. Dans ce groupe-là, c'est depuis d'ailleurs le début des éliminatoires, c'est l'un des groupes les plus serrés parce que les points se resserrent. Le Ghana a 8 points, le Togo a 6 points. Les deux équipes derrière, Ouganda et Guinée, ont 4 points, ce qui voudrait dire que rien n'est encore fait, rien n'est encore joué, même si le Ghana part avec la faveur des pronostics. C'est une équipe gagnante qui se comporte bien dans ses éliminatoires. Le dernier bon résultat, 3-1 face à la Guinée lors de la troisième journée, montre bien à quel point cette équipe ghanéenne-là peut jouer les premiers rôles. Il est en train d'ailleurs de jouer les premiers rôles dans ce groupe. Eh bien, il va falloir suivre donc la suite de la compétition dans ce groupe-là avec le déplacement des Ghanéens en Ouganda. Qu'est-ce que les Ghanéens vont pouvoir bien nous montrer face à une équipe ougandaise qui, elle aussi, n'est pas encore totalement éliminée parce que l'Ouganda a 4 points. C'est vrai que la suite de la compétition s'annonce serrée dans ce groupe-là. Mais déjà, le Ghana a fait un pas important vers le Maroc l'année prochaine. Il reste juste à prendre 2 petits points pour les deux dernières journées et les Ghanéens de la compétition.
On va parler du groupe F dans quelques secondes. Le groupe F et la Zambie qui se rachètent, mais surtout le choc entre les lusophones qui opposaient à Praia le Cap-Vert au Mozambique et les requins l'ont emporté 1-0. Les requins qui sont qualifiés, hein. Et puis on va parler évidemment de la Zambie qui s'est rachetée, victoire sèche 3-0 face au Niger et conséquence, Gernot Rohr qui quitte la sélection du MENA. Il sera remplacé par Cheikh Omar Diabaté, son adjoint. Alors évidemment, Jules Valentin-Gouet, c'est intéressant, hein, ce départ de Gernot Rohr. Le MENA qui est apparu limité et toujours ce manque de moyens malheureusement. Et en revanche, hein, les requins qui confirment leur bonne forme, hein, après ce qu'ils avaient montré à la dernière CAN. Hein.
Oui, bien sûr, dans cette poule, les leçons sont claires. Le MENA redescend d'un cran. C'est une équipe qui est en phase ascendante depuis quelques années, mais qui, petit à petit, décroche depuis quelques temps. Et donc, je crois que dans le classement africain, il va perdre pas mal de place. Mais par contre, le Cap-Vert confirme tout le bien qu'on pense de lui. Et je crois que le cru actuel peut encore nous faire beaucoup de surprises.
Merci beaucoup Jules Valentin, on va donner le résultat du groupe G à Monastir, 1-0 pour la Tunisie face au Sénégal, les Tunisiens qui sont premiers. À noter également le renouveau égyptien qui a battu le Botswana 2-0. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Amérique. Alors messieurs, on parle de CAN 2015, mais la grande question, est-ce que cette CAN 2015 aura lieu? Si oui, dans quel pays? Les interrogations sont nombreuses après, évidemment, la demande marocaine de reporter la compétition pour cause d'Ebola. On vous rappelle que le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunira le 2 novembre en Algérie pour traiter le dossier. On va prendre un auditeur en ligne pour parler de la question. Il s'agit de Léopold Kalanga, il est en Afrique du Sud. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, Léopold, est-ce que vous pensez que les Marocains, finalement, ont pris la bonne décision de demander ce report?
Selon moi, ça pourrait être peut-être une bonne idée, car vis-à-vis de la maladie Ebola qui est en train un peu de se propager avec toute facilité, je ne pourrais pas aussi peut-être accepter, car je suis congolais de Kinshasa, qui est cette Coupe d'Afrique puisse se produire dans mon pays. C'est pour cela, lentement, selon moi, ça pourrait être une bonne idée peut-être de reporter cela.
Alors, on va poser la question à Élisée Ongpatine. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Léopold. Élisée, est-ce que ce n'est pas un peu cavalier à 3 mois d'une compétition internationale de demander un report?
Oui, Nicolas, vous voyez, les Marocains ont leur raison, puisque cette maladie, eh bien, c'est une maladie qui est en train de ravager, hein, toute l'Afrique de l'Ouest. plus de 4000 personnes ont trouvé la mort. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème difficile à régler aujourd'hui. Ça se transmet. Donc, vous voyez, les Marocains ne veulent pas affecter leur population par rapport à cette épidémie. Donc, si déjà la CAF peut trouver une solution par rapport à ce report, ce serait très bien. Vous voyez, le Ghana qui, en temps, avait mis son souhait d'organiser, a décidé au dernier moment. C'est-à-dire que c'est un problème qui préoccupe tellement la population africaine et même les dirigeants. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai, la politique est différente du sport. Si la CAF peut faire un effort et voir une solution par rapport à l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, surtout qu'il reste encore 3 mois, ce serait une très bonne chose. Vous voyez, les entraîneurs européens sont inquiets par rapport à la participation des joueurs professionnels. Donc, il y a trop de problèmes suite à cette épidémie-là.
Oui, beaucoup de problèmes, mais on l'a vu hein, ce soir, Elisa Ongpatine, l'Afrique du Sud qui a déjà dit non. Hein, donc, les choix se réduisent. Roger Stéphane à Abidjan, qu'est-ce que vous pensez? Faut-il maintenir cette Coupe d'Afrique des Nations?
Écoutez, c'est un vrai casse-tête pour nous en ce moment. On ne sait pas quelle va être la décision de la Confédération africaine de football, mais enfin, on ne peut pas vraiment vouloir aux Marocains, sur leur souci de préserver la santé de la population, demande de report pour juin 2015 et janvier 2016, je crois. Est-ce que la CAF va dire oui ou non? Déjà, elle a posé une fin de non-recevoir en saisissant l'Afrique du Sud et le Ghana pour l'organisation. Comme vous dites, l'Afrique du Sud dédie, si j'ai peut-être le Ghana, est-ce qu'on va pouvoir trouver un pays pour suivre véritablement le dossier marocain? C'est un vrai casse-tête, c'est un vrai problème en ce moment pour la Confédération africaine de football. Ça va être un fait sans précédent dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. C'est assez difficile. Autant on est solidaire du Maroc, de la crainte que le pays a de voir la population être contaminée, en même temps qu'on est un peu inquiet de ce que la Coupe d'Afrique des Nations, ce grand rendez-vous sportif, va subir les conséquences de ces fléaux qui touchent toute l'Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont encore en compétition dans ces éliminatoires. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Togo, il y a la Sierra Leone, la Guinée et autres. Bon, c'est assez difficile, assez difficile. Ici, c'est des sentiments mitigés.
Ouais. Roger Stéphane, on va
prise le 2 novembre prochain par le comité exécutif de la CAN.
Roger Stéphane, on va poser la question à Jules Valentin. Jules Valentin, on avait inversé le calendrier de la CAN, évidemment, hein, pour ne pas tomber sur les années Coupe du Monde. On a fait 2012-2013 pour tomber sur 2015. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas annuler cette compétition vu le problème de l'Ebola?
Oui, mais je crois qu'on a encore une petite marge avant de prendre la décision. Il y a des progrès sur le plan sanitaire parce que le véritable problème, c'est de savoir maîtriser l'épidémie, pouvoir la maîtriser. Et l'autre, c'est avoir peut-être un pays qui a les moyens de l'organiser dans des courts délais. Bon, ce que peut remplir le Nigeria, ce que peut remplir l'Afrique du Sud qui s'est désistée et quelques-uns d'autres. Mais je crois que tel que ça se déroule au niveau de la mobilisation internationale et des chercheurs surtout, la situation sera moins critique peut-être d'ici quelques mois.
Ouais, pas sûr pour le Nigérien hein, qui vient d'être déclaré officiellement sans épidémie d'Ebola, pas sûr qu'il veuille accueillir à nouveau évidemment des personnes du continent. Messieurs, rapidement, hein, pour parler de cette autre CAN, la CAN féminine qui se déroule en Namibie, les demi-finales auront lieu mercredi. Deux duels, l'un anglophone entre l'Afrique du Sud et le Nigeria et les francophones entre les Camerounaises et les Ivoiriennes. On va également parler de la troisième journée de la Ligue des Champions qui débute demain sur les pelouses européennes. Le choc, ce sera mardi soir à Rome entre l'AS Rome et le Bayern de Munich. On va rapidement vous donner un résultat de handball pour vous dire que les Angolaises du Primeiro de Agosto ont remporté le 36e championnat d'Afrique des clubs champions de handball en battant leurs compatriotes de Petro Atlético. Voilà, ainsi va s'achever ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier à Abidjan Roger, Stéphane, C. Bonsoir.
Oui, bonsoir et au revoir.
On va remercier également Aboïkon, Élisée Ongpatine. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas et puis à bientôt.
Et un grand coucou évidemment à Jules Valentin-Goué à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Voilà, on va vous donner les rendez-vous sportifs cette semaine évidemment. La Ligue des Champions sur les pelouses européennes, ce sera mardi et mercredi. Ainsi que la CAN féminine qui se déroule en Namibie. La mise en onde était assurée par Georges Léonard Sagnon. On vous donne toujours rendez-vous sur le www.lavoixdelamerique.com ou sur notre page Facebook. Nicolas Pinault était à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur.
les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.